Vous écoutez RTL.
RTL. Notamment dans l'hypothèse que j'appelle de mes vieux.
Je suis effectivement un partisan de la peine de mort.
Chacun doit être certain qu'il est présumé innocent avant d'avoir été condamné.
C'était une boutade et je laisse ça au niveau de la boutade. Et je respecte Madame Royal.
Le Conseil constitutionnel qui prendra sa démission demain, qui prendra sa décision.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les lapsus politiques, les gaffes, les petites phrases, voilà ce qu'on vous raconte maintenant dans la curiosité. Et pourquoi on a eu cette idée? C'était il y a une dizaine de jours en voyant la une de Paris Match avec Emmanuel Macron et sa femme. Et surtout en entendant le jeune ministre de l'économie regretter ces photos trop intimes données au magazine. On s'est dit qu'une carrière politique, c'était fragile. Bonsoir, Mathieu Verrier.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique correspondant à Paris pour la Voix du Nord. Vous publiez le contre-manuel de la politique chez Tana Édition, qui recense notamment ces lapsus qu'on a entendus à l'instant. Parlons un peu d'Emmanuel Macron. Il fait une erreur ce jour-là, avec la une de match.
Il en fait même plusieurs, puisqu'il fait cette une de match qui est un peu vieille com à la papa. Mmh. Et puis après, il la regrette, il rejette la faute sur sa femme. Ça manque terriblement d'élégance. Il regrette après d'avoir rejeté la faute sur sa femme. Donc
il dit que c'est une erreur qu'on a fait à deux. Ça s'est terminé comme ça quand même.
Ouais, c'est la fin de la phrase. Le début est un peu dur pour son épouse.
Bon, j'essaie de l'aider, mais...
C'est bien, il faut le défendre.
C'est le genre d'erreur où on essaye de s'en sortir et finalement, faut sortir les rames et on n'y arrive pas.
Ah ça, il y en a des politiques qui sortent les rames dans votre livre. On va parler d'histoire d'argent, tiens, pour commencer.
Ah oui, ça c'est l'un des meilleurs moyens de flinguer sa carrière politique. C'est l'argent, les signes extérieurs de richesse. Ça peut vraiment ruiner une carrière, ou en tout cas l'entacher.
Ça peut l'entacher, ça peut entacher un quinquennat comme celui de Sarkozy, ça peut entacher une carrière comme celle de Julien Drey.
Alors on va parler des premiers jours, du mandat de Nicolas Sarkozy. Il les a traînés pendant tout son quinquennat, ces histoires d'argent.
Oui, vraiment, pendant les 5 ans, il a traîné ça.
Alors, vous nous rappelez ce qui s'est passé?
Déjà, comment il arrive à l'Élysée? Il arrive en tant que jeune ambitieux qui assume son ambition, et c'était assez bien vu, ce côté ambition assumée. Mmh. Sauf que quand on arrive à l'Élysée, il faut rentrer tout de suite dans la fonction. Et la fonction, c'est pas la même chose qu'un ministre de l'Intérieur ambitieux. Et il arrive, il fait une fête, il organise une fête au Fouquet's le soir de son élection.
Mmh. Lui et sa famille sont habillés en Prada.
Voilà.
On l'a dit récemment dans une émission. C'est
vrai. Il va sur le yacht de Bolloré. Mmh. Il porte des Ray-Ban, des montres de luxe.
C'est-à-dire que le côté bling-bling et ces mots qu'on a associé au quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est dès le début en fait.
C'est dès les premiers jours. Et il ajoute à ce côté bling-bling, à cette personnalité assez critiquée dès le début, il ajoute le bouclier fiscal. Mmh. Alors là, on rentre plus dans la politique. Mais ce qui fait qu'il est... Donc ça, c'est voté dès juillet, dès l'été. Ce qui fait qu'il est à la fois le président bling-bling et à la fois le président des riches. Mmh. On dit que c'est le président des riches. D'ailleurs, le yacht de Bolloré mêle un peu les deux. C'est un yacht, ça fait très bling-bling. Et c'est Bolloré, c'est le président d'un petit cercle de riches.
Alors les montres ont aussi joué des tours à certains hommes politiques. Lesquels, vous en avez cité un?
Julien Drey. Ouais. Julien Drey, c'est vrai que...
Mais c'est pas le seul. Il y a aussi Jean-François Copé. Alors, on la connaît moins, l'histoire de Copé. Racontez-la.
Alors, je vous dirai pourquoi on la connaît moins. C'est que... Alors, Jean-François Copé était ami avec Ziad Takieddine. Je ne sais pas s'il est encore ami avec lui. Mais en tout cas, il était ami avec Ziad Takieddine.
Un homme d'affaires.
Qui offre, comme on offre à un ami, une Rolex. Et quand la justice s'intéresse à Ziad Takieddine quelques années plus tard, la justice s'intéresse à cette Rolex. Et Copé, il sait pas ce qu'il fait de tous les cadeaux de ses nombreux amis, donc il dit non, ma Rolex, je ne sais pas où je l'ai mise, je l'ai perdue. Voilà. Moi personnellement, si j'avais une Rolex, je crois que je ne la perdrais pas.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça l'a poursuivi là aussi cette histoire, Jean-François Copé?
Ça l'a un peu poursuivi. Encore le prix, d'une certaine façon. Ça l'a un peu poursuivi, et puis ça a mis en valeur aussi son amitié avec Takidine, qui est un personnage un peu trouble. Alors il y a cette histoire de montre, et puis il y a aussi et surtout la photo de Copé et Takidine dans la piscine avec leur femme. Là aussi, ça l'a pas mal poursuivi.
Alors, on va parler de la façon dont les politiques essayent de s'en sortir, comment ils construisent leur défense. Ils la construisent parfois grâce à la créativité linguistique. La palme à Jacques Chirac, il est à l'époque président de la République, il est empêtré dans l'histoire de la cassette mairie, une affaire de financement politique déjà.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'un an. On disserte sur des faits invraisemblables, qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans. On exhume un enregistrement fait il y a plus de 4 ans, et dont le journal lui-même, qui publie ses propos, les qualifie d'invérifiables et de sans valeur juridique.
Jacques Chirac était face à Élise Lucet, j'ai revu la vidéo tout à l'heure, assez ébahi face à ce mot, abracadabrantesque. D'où sort-il ce mot ?
Alors, je ne sais pas s'il est allé chercher dans les poèmes d'Arthur Rimbaud, mais c'est effectivement un mot qu'avait employé Arthur Rimbaud dans le poème Le cœur volé. Voilà, il disait « Au flot abracadabrantesque, prenez mon cœur, qu'il soit sauvé ».
En tout cas, il a bien choisi parce que ça a marqué les esprits.
Bien
hein.
sûr, c'est un mot qui est resté et qui a peut-être servi aussi un peu d'écran de fumée pour pas trop parler du fond de l'affaire.
Votre livre, Mathieu Verrier, fourmille d'anecdotes. On parlait tout à l'heure du général de Gaulle et de son ministre de la Culture, André Malraux. Ça se passe à la Comédie Française et je vous laisse raconter la suite.
Donc ça se passe à la Comédie Française qui n'était pas occupée par les intermittents à cette époque. Le président de Gaulle va voir une pièce avec son ministre de la Culture, André Malraux. À l'entracte, les deux vont se soulager aux toilettes. Et là, aux urinoirs, donc ils se retrouvent à côté. C'est toujours un peu délicat de parler à De Gaulle. Ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine, ça doit être impressionnant.
On imagine que c'est impressionnant, justement, parlons-en.
Malraux, ministre de la Culture, lui dit « Belle pièce, mon général. » Et De Gaulle répond « Regardez devant vous, Malraux.
» Voilà, j'adore. C'est l'une des meilleures anecdotes de votre livre. Il y en a plein d'autres dans ce contre-manuel de la politique. On va continuer de découvrir ces petites phrases qui tuent, ces carrières brisées, ces échecs cuisants. Bref, l'art et la manière de flinguer sa carrière. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. RTL.
La curiosité de découvrir la politique sous un jour nouveau et amusant avec notre invité, le journaliste Mathieu Verrier, qui publie un contre-manuel de la politique. C'est chez Tana Édition. Alors, l'art et la manière de flinguer sa carrière, c'est ce que vous racontez. Et des histoires d'appartements, par exemple, sont souvent au cœur des scandales. Par exemple, pour Hervé Guémard, on est en 2005, il vient d'être nommé ministre de l'économie. Vous nous rappelez ce qui lui arrive ?
Alors lui, il a vraiment flingué sa carrière. Donc en 2005, c'était une grande valeur montante de la droite. Et d'ailleurs, il arrive à Bercy, ministre de l'économie. Bercy a des logements pour ses ministres. Mais Hervé Guémard a 8 enfants. Donc les logements de Bercy étaient un peu petits. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il loue un appartement pas très loin d'ici, dans le 8e arrondissement, ouais, je crois, pour toute sa famille, un appartement de 600 mètres carrés, soit un loyer de 14 000 euros mensuels.
Si c'est lui qui paye, ça va ?
Mais ce n'était pas lui, bien sûr, c'est le ministère qui paye. Le ministère, en général, loge les ministres. Voilà. Et paye dans le privé s'il y a pas de quoi loger dans le ministère.
C'est le canard enchaîné, si je me souviens bien, qui avait sorti l'affaire.
C'est le canard enchaîné qui sort l'affaire.
Avec des conséquences très lourdes pour Hervé Guémard.
Il a dû démissionner. Et d'ailleurs, à cette époque, du coup, Jean-Pierre Raffarin a dressé un barème de ce que les ministres pouvaient louer. Et Guémard, selon ce barème, ne pouvaient pas dépasser 240 mètres carrés.
Ça veut dire qu'on choisit maintenant les ministres en fonction du nombre de leurs enfants ? Non, 8 c'est trop.
Oui. Non mais c'est pas ça, mais bon, on va pas rentrer dans le détail de cette histoire, mais il avait un appartement à lui, personnel, et l'un des aspects de la polémique, c'est qu'il avait un locataire dans cet appartement qui aurait pu le quitter pour que lui s'y installe avec ses enfants. Voilà.
Copé a eu à peu près la même histoire, à peu près au même moment, quelques semaines après, il n'a pas été forcé à la démission, lui.
Ouais. Mais ce qui est intéressant dans ces histoires, c'est le manque de mémoire des politiques. Parce que des histoires d'appartements, j'ai l'impression qu'il y en a à chaque génération. Par exemple, Juppé, lui aussi, Alain Juppé, quand il était tout nouveau Premier ministre, c'est ça, avait dû affronter un scandale lié à son appartement.
C'est ça, en 95, ça faisait 5 ans qu'il habitait dans un logement fourni par la mairie de Paris. Mmh. Mairie de Paris dirigée par Jacques Chirac à l'époque. Il avait fait attribuer aussi un logement à son fils. Donc quand il est devenu Premier ministre, ça a fait scandale. Les deux ont quitté les appartements et il a pu continuer son travail à Matignon.
C'est-à-dire, il a fait amende honorable. Le fait de partir, ça lui a permis de rester à son poste.
On était en 95, quelques temps après la présidentielle, donc c'est pas la même légitimité qu'en 2005 pour Guémard.
Et là, dans la catégorie des petites phrases que l'on regrette, et là on va se régaler, il y a les lapsus, ils sont souvent à connotation sexuelle, n'est-ce pas, Rachida Dati?
Quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise.
Le taux de fellation quasiment
c'est un grand moment.
De Rachida Dati va rester évidemment un classique. Il y en a eu d'autres, des lapsus célèbres.
Rachida Dati toujours, qui parle de God du travail.
Oh, décidément.
Il y a eu Pierre Bérégovoy en 83 qui dit « Nous avons décidé de baiser ». Il se reprend de baisser les impôts. Et après, il fait une petite pirouette.
Baisons les impôts.
Oui. Oui. C'est drôle parce que le lapsus n'a pas toujours un sens, mais le lapsus peut avoir un sens politique. Par exemple, François Hollande, on est au moment de l'investiture de Ségolène Royal comme candidate du PS à la présidentielle. On est donc en 2006.
Oui, il faudra leur rappeler cette leçon simple. Si l'on veut battre la gauche, il n'y a qu'avec la gauche. Pardon. Si on veut battre la gauche, on peut toujours le faire en votant à droite. Mais si on veut battre la gauche avec la droite...
C'est dingue parce que quand on sait aujourd'hui ce qu'étaient les relations entre François Hollande et Ségolène Royal et ce qu'a été, on va dire, le faible soutien du Parti Socialiste à la candidature de Ségolène Royal, ça prend un sens finalement ce lapsus.
Oui, oui, je crois qu'aucun ou très peu de socialistes voulaient la victoire de Ségolène Royal à l'époque. Donc effectivement, il exprimait bien ce que voulait le PS. Ouais.
Ah, quand l'inconscient s'exprime. Hein. Autre lapsus.
C'est un joli mot.
C'est pas mal.
Il
ça
veut rien
aussi,
dire,
hein,
mais
voyez, on va en faire quelques-uns. Signé Nicolas Sarkozy cette fois. On est en septembre 2015 lors de l'université d'été du parti Les Républicains.
Dans l'identité française, dans cette identité à laquelle je crois, il y a quelque chose que je suis très attaché. C'est que la France de toute éternité a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. Toujours été du côté de celui qui était jeté en prison parce qu'il croyait dans ses idées.
Ce qui est étonnant, c'est que Nicolas Sarkozy fait comme si de rien n'était.
Oui, heureusement pour lui, parce qu'il enchaîne les fautes de syntaxe, les lapsus. Nicolas Sarkozy, c'est un peu un spécialiste pour ça. Donc heureusement qu'il enchaîne.
Oui, on est porté par la musique, hein, comme nous expliquait Jean-Habit Bol, le phoniatre. On n'écoute pas tant les mots que la musique finalement, du discours.
De la prise de parole des hommes politiques, c'est pas faux. C'est vrai aussi que Mathieu Verrier, c'est plus difficile aujourd'hui pour les hommes politiques. Ils sont non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ils sont filmés en permanence, quoi, à l'ère du téléphone portable. Il n'y a plus rien qui passe inaperçu. Non.
Oui, c'est ça. Il y a le téléphone portable, il y a les chaînes de télé en continu, il y a les séances à l'Assemblée qui sont retransmises, qui sont filmées, qu'on peut voir sur Internet.
Il y a les micros et les caméras du petit journal qui font un très beau boulot, mais ils sont très proches des politiques tout le temps. Et
voilà, c'est ça. Mais des radios aussi.
Ouais,
les radios aussi ont toujours un micro tendu. Donc c'est vrai qu'il faut être dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle sans arrêt. forcément, à un moment, le naturel revient au galop.
Oui, le « casse-toi, pauvre con », par exemple, de Nicolas Sarkozy au Salon de l'agriculture, il serait peut-être passé inaperçu 10 ou 15 ans avant. Là, il y avait une telle noria d'équipes. C'était en l'occurrence une équipe de télévision qui travaillait pour Le Parisien, leparisien.fr. C'est ça. Ouais. Peut-être que 15 ans plus tôt, il n'y aurait pas eu autant de caméras autour de lui. On est d'accord là-dessus?
Oui, 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 surtout que dans ce cas précis, je crois qu'il n'y avait pas énormément de caméras à ce moment-là. Mmh. Il y avait juste la petite caméra du Parisien. Ouais. C'est vrai que du coup, ça passe plus inaperçu, on fait peut-être moins attention.
Alors, dans votre contre-manuel de la politique, Mathieu Verrier, vous racontez donc des histoires d'appartements qui ont flingué une carrière. Il y a aussi des histoires de travaux. Les travaux dans un bureau. Alors là, forcément, on pense à qui?
À Thierry Lepan.
Thierry Lepan, qu'est-ce qu'il était au moment de cette histoire?
Alors lui, il dirigeait la CGT. Il était secrétaire général de la CGT. Mmh. Et comme tout secrétaire général de la CGT, il avait droit à un appartement de fonction. Mmh. Et il fallait le remettre un peu en état. Il y en a eu pour 100 000 euros de travaux. Gros scandale, c'est un peu luxueux pour un secrétaire, pour un syndicaliste.
Certes.
Voilà, donc il a été poussé à la démission, il a été blanchi ensuite.
C'est-à-dire que c'était pas lui qui avait pris la décision, c'est ça?
Voilà, c'est ouais. Ça, oui. Ouais, ouais.
Alors, je suis pas sûre que ça va vous rassurer, mais il y a encore beaucoup d'autres façons de torpiller sa carrière pour un politique. Et certains ministres ont même battu des records. Le recordman n'a même pas tenu 10 jours à son poste.
Ça fait pas beaucoup.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Chaque semaine, l'actualité nous offre son lot de petites phrases politiques, plus ou moins maîtrisées, de scandales, plus ou moins gros. On a donc décidé de s'amuser avec ces bourdes de nos élus. Et c'est avec le journaliste Mathieu Verrier qui publie le contre-manuel de la politique chez Tana Édition. Mathieu, ça fait réagir nos auditeurs, en l'occurrence Angela, qui nous appelle de l'Oise au 3210 et qui nous rappelle cette claque de François Bayrou qui a fait parler d'elle. Racontez-nous, on est en campagne électorale, si je me souviens
bien. On est en campagne électorale en 2002. François Bayrou se rend à Strasbourg, dans un quartier un peu chaud. Il est malmené par des jeunes. Il doit se réfugier quelque temps dans un local. Il ressort à la rencontre des jeunes pour nouer le dialogue. Mmh. Il est une nouvelle fois chahuté. Et là, ça part, il claque un jeune... un enfant, ouais. Il avait 10 ans, je crois, à l'époque.
Il lui colle une baffe, pourquoi?
Parce que l'enfant a glissé sa main dans la poche de François Bayrou.
Il est en train de lui faire les poches.
Il est en train de lui faire les poches.
On peut dire les choses comme elles sont.
On peut dire ça comme ça.
Donc, réaction spontanée. Ça l'a servi ou desservi, François Bayrou, dans cette campagne électorale?
Alors, ça se discute. Beaucoup disent que ça l'a servi, qu'il a fait preuve d'autorité, ce qui est pas mal pour un centriste. Ça pose un peu...
Le centre mou, d'un seul coup...
Voilà, le centre
durcit.
Mou se durcit. Ça a beaucoup moins servi le garçon qui ensuite a été surnommé Bayrou. Dans sa cité. Ah. Ça l'a un peu poursuivi. Ouais. Voilà,
il y a pire comme surnom, ça va.
Oui, il y a pire. Bon, on va en donner quelques surnoms d'hommes politiques. François Bayrou, si je me souviens bien, il a grimpé dans les sondages quand même après cet épisode de la claque, donc ça l'a peut-être servi quand
il
même.
Il a fini autour de 7.
Oui, 7-8% voilà. Au premier tour de la présidentielle, c'est sûr.
Alors, si on faisait la liste des ministres les plus éphémères, le recordman s'appelle Thomas Thévenoud. Combien de temps il a tenu, Mathieu Verrier?
Il a tenu 9 jours.
9 jours,
c'est tout juste le temps de vérifier sa situation fiscale et patrimoniale.
Alors tout le monde se souvient de la raison qu'il a invoquée. Il parlait d'une phobie administrative. Il en a même tiré un livre. Et à cette occasion, on a appris que sa maladie n'était pas forcément soignée. Pourquoi?
Parce qu'il est ressorti une histoire comme quoi il n'avait pas payé la cantine de ses filles. Alors, faut dire
une vieille histoire, c'est ça?
C'était une vieille histoire, voilà.
Qui est ressorti
quelques années. Comme on a ressorti ses frais de kiné,
tout ce qu'il n'avait pas payé en raison de sa phobie administrative.
Et voilà.
Et sa défense, c'est toujours de dire... Je paye, mais en retard.
Mais en retard.
Voilà, j'ai payé mes impôts, mais en retard. Qui sont les autres champions du court séjour ministériel?
Alors, en co-détenteur, il y a Léon Schwarzenberg. C'était en 88, donc il reste aussi 9 jours. Lui, il avait fait des déclarations en faveur de la légalisation du cannabis et des dépistages pour le VIH, oui, pour les femmes enceintes.
D'accord. Ensuite, on a un désaccord qui peut être profond d'ailleurs, hein. Ça peut être le signe d'un désaccord politique. Par exemple, Jean-Jacques Servan-Schreiber qui part en 74.
Voilà, au bout de 13 jours.
C'est pas beaucoup non plus. Pourquoi ?
Il était opposé aux essais nucléaires.
Très bien, mais enfin, il aurait pu en discuter avant, quoi, non ?
Oui, mais alors, on croit toujours et on laisse croire. Alors, surtout pour ce genre de personnages issus de la société civile, comme on dit, on croit toujours qu'on va rentrer au gouvernement et qu'on sera quand même libre de ses pensées, de ses paroles. Puis finalement, on rentre dans son ministère, on se retrouve que c'est pas tout à fait ça et qu'on est un peu muselé.
Et il y a aussi le ministre qui trouve mieux à faire ailleurs. Pourquoi Philippe Briand démissionne-t-il en 2004 ?
Alors, je ne sais pas s'il trouvait mieux à faire ailleurs, c'est qu'il était chef d'entreprise, il n'a trouvé personne pour le remplacer à la tête de l'entreprise. Du coup, il a dû quitter son Marocain.
Il était ministre de quoi déjà ?
Il était secrétaire d'État à l'aménagement du territoire.
Ouais. Voilà, c'est souvent des secrétaires d'État d'ailleurs qui démissionnent ou qui sautent au bout de quelques jours. Ah, tiens, un autre classement à découvrir dans votre contre-manuel de la vie politique, celui des ventes de livres, et la palme du plus beau bide revient à...
Moi, voilà. Ce que je souhaite, c'est le référendum. Si on veut la paix sociale dans ce pays, il faut qu'il y ait un référendum, parce que c'est le suffrage universel apportera la paix dans ce pays. Chose. Mais si c'est le Parlement, il y aura des tensions et une radicalisation.
Christine Boutin qui demandait un référendum sur le mariage pour tous, c'était dans une émission sur Paris Première face à Éric Nolot. Elle avait publié en 2010 un livre intitulé « Qu'est-ce que le parti chrétien démocrate ?» Combien d'exemplaires vendus, Mathieu Verrier ?
58.
Parce que tout le monde connaissait la réponse à sa question, peut-être.
Voilà, c'est sûrement ça. Mais il n'y a pas d'économie pour ça. C'est-à-dire que la maison d'édition perd forcément de l'argent, évidemment.
Elle ferme.
Après, les politiques...
Le scoop du soir, la maison d'édition a déposé le bilan après la publication.
J'en sais rien, je dis ça évidemment.
Il y a une petite technique, c'est que le politique achète des bouquins, c'est dans le contrat. Le politique achète une centaine ou plusieurs centaines de...
Ah,
c'est contractualisé
livres,
ça ?
D'accord.
Oui, c'est contractualisé, oui.
Bah ça alors. Et alors en 2015, Jean-Vincent Placé demande « Pourquoi pas moi ?» D'ailleurs, il ne demande pas, il le lance comme ça avec un point d'exclamation. Donc il demande ça dans un livre et les lecteurs lui répondent quoi ? Ils lui répondent comment ?
Je ne sais pas s'ils ont répondu, parce qu'ils ne l'ont pas lu.
En quelque sorte.
552 exemplaires vendus.
C'est une bonne réponse.
Ah oui, c'est effectivement très peu. Il y a beaucoup d'autres membres du club, des moins de 1000 exemplaires à découvrir dans votre contre-manuel de la vie politique. Il y a plein de pièges. Tiens, par exemple, les vacances. On vous racontera comment la Tunisie, l'île Maurice et les Maldives ont joué des tours à Michel Ayomari, Jacques Chirac et Cécile Duflo.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL. Vous écoutez RTL.
RTL. Donc il fait chaud. Non, c'est pas tellement le bruit, il fait chaud. Mais enfin, il paraît qu'on va avoir des métros climatisés dans l'an 2000. C'est demain, l'an 2000.
C'était pas exemplaire. C'était un cadeau, une surprise. Ça fait 10 ans que j'en rêve. Les écologistes n'ont jamais dit qu'on avait plus le droit de voyager.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Nous sommes curieux des anecdotes de la vie politique que notre invité, le journaliste Mathieu Verrier, a recensé pour un livre très drôle, Le contre-manuel de la politique. C'est publié chez Tana Édition. Mathieu Verrier, pour flinguer sa carrière, c'est pas mal les vacances aussi, hein. C'est même un piège dangereux. Mam peut en témoigner, vous nous racontez ?
Oui, alors les vacances, c'est un moment où on se détend et là on oublie de tout contrôler. Mam a voulu se...
Michel Alliomari donc.
Oui, pardon, Michel Alliomari.
Son petit nom, c'est tellement entré dans les mœurs.
Oui. Et donc, elle a voulu se détendre en Tunisie. Et pour rejoindre sa villégiature, elle a été emmenée par un homme d'affaires qui l'a emmenée dans son avion privé, Aziz Miled. Donc voilà, jusque-là... rien de bien grave, sauf que c'était pendant... tout début du printemps arabe, il commence à y avoir des manifestations en Tunisie. Et ce fameux Aziz Miled était un proche du président Ben Ali. Voilà, donc Le président Ben Ali a dû démissionner quelques semaines plus tard. Michel Alliot-Marie a essayé de s'expliquer, de dire que c'était complètement un hasard. Il voulait y aller en voiture et que son ami lui a proposé gentiment de l'emmener en avion.
Mauvais timing,
mauvaise défense. Et elle a dû démissionner quelques semaines après.
Et ça a pris cette résonance dramatique pour elle aussi parce que dans les premiers jours de manifestation, elle avait proposé une espèce d'aide militaire ou policière de la France au régime de Ben Ali. Donc elle était déjà soupçonnée d'une espèce d'accointance.
Voilà, en plus elle avait été très maladroite.
Voilà. Elle se défend d'ailleurs toujours aujourd'hui avec virulence. Quand on lui parle de cette histoire, je peux vous dire qu'elle monte au créneau très très vite, Michel Alliot-Marie. Toujours à propos de vacances, Jacques Chirac s'est lui aussi pris les pieds dans le tapis roulant de l'aéroport. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Alors lui, il a payé ses billets d'avion en liquide.
Bon. Sauf que si c'est pour aller avec Hop à Toulouse, à la rigueur, c'est possible. Mais si c'est
sauf
pour
que
aller,
c'était pas pour aller à Toulouse aller avec Hop qui n'existait pas à l'époque.
Bien sûr.
C'était pour aller au Japon et surtout à l'île Maurice.
Oui, donc ça fait un peu beaucoup d'argent liquide.
Mais l'affaire a été dévoilée quand il était président de la République, donc intouchable. Et il l'a sorti en plus. Une de ces fameuses techniques dont on parlait tout à l'heure, il a dit à la télé que ses affaires, celle-ci et d'autres, feraient pchit. Et donc on a retenu surtout le pchit plus que les affaires.
Mais ça lui a valu un surnom au guignol de l'info
Qui était super menteur.
C'est vrai que ça lui a collé au basque, au guignol pendant longtemps.
Il y a d'autres surnoms, d'ailleurs vous les listez dans votre livre Mathieu Verrier. On va d'abord rappeler ceux des présidents, François Hollande.
François, il y en a plein. Hein.
Alors il y en a plein parce que il s'y prête beaucoup et parce que en face de lui il y avait un homme terrible. C'était Laurent Fabius qui lui est en surnom. Il est très fort.
Ah, donc il y a beaucoup des surnoms de François Hollande qui ont été inventés par Laurent Fabius.
Voilà, ou par son très proche collaborateur Guillaume Bachelet qui est maintenant très proche de François
on
Hollande.
On veut des surnoms.
Culbuto. Culbuto.
On donne pas notre avis, nous. On entend.
Fraise des bois.
On rit bêtement, c'est tout.
Guimauve le conquérant.
Ah, ça, j'ai entendu. C'est rigolo, ça, Guimauve le conquérant. Oui. C'est mignon.
Pépère, monsieur petite blague.
Nicolas Sarkozy, j'imagine qu'il en a eu pas mal.
Nicolas Sarkozy en a eu pas mal aussi. Alors, on l'a appelé l'omniprésident. Napoléon.
C'est pas mal, Napoléon.
Ou Lapin Duracell aussi. Bon,
ça nous fait bien rire.
C'est de la caricature, en fait.
Mais oui,
hein.
Bien sûr, évidemment. Et puis surtout, ça vient de politique. Et ça vient d'ailleurs parfois de leur propre camp. C'est dire la dureté.
C'est la bonne ambiance.
La dureté et la bonne ambiance. Alors tiens, c'est les femmes politiques. Aussi, Martine Aubry et Ségolène Royal, elles en ont quelques-uns. Martine Aubry, par exemple.
Alors, il y a Titine. Facile.
Ça va, c'est affectueux.
Il y a la mère Amptoire.
Oh, c'est rigolo.
Tullius Détritus. Ou encore la mère Tape Dure.
Ouais, d'accord. Ségolène Royal.
Alors, Ségolène Royal, c'est un peu plus méchant. C'est Bécassine, Evita Peronel, la Madone du Poitou.
Oui.
Il y avait aussi Zapatera.
Quand il y avait le Premier ministre espagnol qui s'appelait Zapatero. On vient en vacances avec Cécile Duflot. On l'a entendu tout à l'heure devoir se justifier avec
pas mal d'émotions. C'est le rêve de sa vie.
Avec pas mal d'émotions dans sa voix. Pourquoi elle doit se justifier de quelles vacances?
De vacances aux Maldives.
Ouais.
Alors c'est vrai que les Maldives, c'est quand même pas très écolo parce qu'il faut y aller en avion.
Mais dans ce cas-là, rien n'est écolo. Hein, parce que si on part un petit peu loin de chez nous. Je vais pas prendre sa défense, mais bon, c'est vrai.
Non, mais deux semaines sur le plateau du Larzac, c'est beaucoup mieux vu que.
Mais pourquoi ça fait scandale alors? C'est là aussi une question de timing.
C'est aussi une question de timing. Alors quelques semaines auparavant, elle est allée à la conférence climat à Copenhague. Mmh. Elle y va en train, parce que écolo, elle veut montrer l'exemple, donc elle y va en train, à grand renfort de communication, et elle revient en avion. Donc là aussi, son bilan carbone en a pris un coup. Donc voilà, il y a ça, plus les Maldives, ça fait un très mauvais bilan carbone.
On va terminer avec le métro, on a entendu Édouard Balladur dans le métro. On est en 93, c'est
93,
ça, oui, donc c'est pas encore la campagne électorale, on va dire que c'est la pré-campagne. Qu'est-ce qui lui arrive dans le métro parisien?
Il veut être un Premier ministre proche des gens. Donc, comme tout le monde va dans le métro, Monsieur Balladur va dans le métro.
Sauf qu'il n'a pas l'air de l'avoir vraiment pris, c'est ça?
Non, c'est ça. Alors, à chaque fois qu'un Premier ministre va dans le métro, il y va avec beaucoup de caméras, beaucoup de micros. Mmh. Il ne sait pas trop quoi faire dans ce métro. Donc voilà, il arrive dans le métro. À la sortie, on lui demande une réaction et il ne peut dire autre chose que « il fait chaud ».
Et on va bientôt inventer la climatisation
en l'an 2000.
Dans le métro, en l'an 2000.
C'est de la science-fiction.
Voilà, c'est de la science-fiction.
Il fait beaucoup plus frais dans le métro.
Tiens, on termine avec cette réaction de Michel qui nous appelle de Seine-et-Marne. Elle nous demande quelle est cette histoire avec Julien Drey que vous avez annoncé. C'est l'histoire des montres, en fait. On en a parlé rapidement. Hein,
voilà,
c'est ça.
C'est l'histoire de montres. Il y a eu une petite enquête de Tracfin à propos de son train de vie, de ses achats de montres. Mmh. Une enquête qui a débouché sur un rappel à la loi. Voilà, c'est uniquement ça. Voilà. Mais ça a construit la légende. Ouais.
Et ça lui a joué des tours et des torts.
Merci
voilà, pour
beaucoup.
Assouvir la curiosité de notre auditrice.
Mathieu Verrier, pour assouvir votre curiosité, vous pouvez lire le contre-manuel de la politique chez Tana Édition. Il y a encore beaucoup d'histoires à y découvrir. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.